Bonsoir, comment allez-vous ? Pourquoi le lave-vaisselle canalise-t-il tous les agacements ? Peut-être reflète-t-il nos différences ? Dis-moi comment tu remplis ta machine, je te dirai qui tu es. Rincez-vous les assiettes avant de les ranger. Mettez-vous les couteaux pointe en haut ou pointe en bas ? Placez-vous les couverts en vrac ou les fourchettes avec les fourchettes, les cuillères avec les cuillères et ainsi de suite ? Ou pire encore, avez-vous opté pour le tiroir à encoche où chaque couvert est rangé avec une minutie d'horloger ? Mélangez-vous les verres et les marmites ? Ne le mettez-vous à tourner que quand il est plein à ras-de-ras-de-ras-bord, après avoir tout repositionné 8 fois pour que tout ça tienne bien, avec au final une certaine satisfaction. Ou bien, mettez-vous à tourner ce lave-vaisselle systématiquement après chaque repas. Jetez-vous les miettes dans la machine, ou au contraire, vérifiez-vous que rien, absolument rien, ne pénètre dans l'habitacle, car vous ne supportez pas d'encombrer le filtre, que vous ne savez pas démonter, et encore moins remonter. Personnellement, je ne m'engagerai jamais avec quelqu'un aussi bien dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle avant de l'avoir vu se comporter 1 avec sa mère, 2 avec son lave-vaisselle, ou l'inverse.
Je m'appelle Aude, j'ai 10 ans et je voudrais savoir quand et comment on a créé le couteau, la fourchette et la cuillère. Au revoir maman, les petits bateaux et merci.
Bonsoir Aude, merci à toi pour cette question. Didier Le Fur, auteur de La France de la Renaissance, dictionnaire des curiosités chez Talendier.
Le couteau et la cuillère sont des ustensiles qui ont apparu très tôt. Le couteau, tout simplement parce que c'était une arme, ça servait à tout. Dès l'époque du bronze, hein, grosso modo, le couteau existe. La cuillère aussi. Mais la cuillère était utilisée pour l'époque antique essentiellement, exceptionnellement. En France, en Europe, on avait perdu un petit peu toutes ces traditions-là. Et pendant longtemps, on a mangé avec ses doigts. Et le couteau ne servant à table uniquement que pour piquer dans le plat, oui. Puisque le plat était commun, il n'y avait pas d'assiette. On prenait dans un plat principal avec le couteau, voire même avec ses doigts. Et le couteau servait à couper un morceau de viande, ou c'était même pas toujours utile. Hein. Et la cuillère, elle, par contre, était elle aussi exceptionnelle et servait uniquement qu'à prendre les sauces pour les mettre sur le mets. Début du XVIe siècle, certaines personnes trouvaient que c'était pas très très hygiénique parce que les doigts n'avaient pas forcément été lavés, qu'ils avaient traîné partout dans la journée. On a imaginé qu'une fourchette pouvait exister. Alors la fourchette, au départ, elle a été inventée à Venise. Elle est exclusivement réservée à la noblesse ou en tout cas à la haute société. Et elle est faite de deux piques et avec un long manche. Mais on la mettait pas à la bouche encore. Elle servait uniquement à prendre le mets et c'était avec les doigts qu'on mettait le mets à la bouche puisque seuls les doigts pouvaient atteindre la bouche. Cette nouveauté vénitienne va se répandre peu à peu. Alors la légende veut qu'en France, elle a été instaurée par Henri III en 1574, juste après son voyage à Venise. En fin de compte, elle était connue bien avant, puisque certaines personnes, notamment à la cour de France la première, l'utilisaient, ou à la cour d'Espagne aussi, puisque Charles Quint, dans les années 1530-1540, on en avait une aussi. Cette fourchette, finalement, qu'on va peu à peu utiliser, un, pour piquer, et deux, après, pour mettre à la bouche, était considérée par beaucoup comme un objet extrêmement précieux, presque trop efféminé, en tout cas pour les hommes. Et donc, une quantité de gens l'ont refusé. Et en plus, avec tout l'imaginaire qui tournait autour d'Henri III, avec tous ces mignons, toute cette préciosité qui pouvait exister, eh bien, du coup, il y avait une sorte de rejet aussi de tous les opposants d'Henri III et de toute son image, qui en profitaient justement pour dire que même cet ustensile-là était l'expression même d'une dégénérescence, en fait. Et cette fourchette, finalement, va quand même se développer au cours du XVIIe et XVIIIe siècle, mais elle n'aura vraiment une popularité qu'au XVIIIe, lorsqu'elle va atteindre les tables de la bourgeoisie. Par rapport à cela, la cuillère, elle, qui n'était pratiquement pas utilisée jusqu'à la fin du XVe siècle, va être l'instrument principal des paysans. Et donc les paysans, outre le fait qu'ils boiront souvent et longtemps leur soupe directement au bol, eh bien, vont utiliser après leur cuillère, cette cuillère pour manger les plats un peu plus consistants. Et c'est au 19e que cette fourchette va se répandre davantage dans la paysannerie. Alors, il y a une petite chose amusante aussi, c'est que le couteau qui a eu longtemps une lame pointue, à partir du moment où il est arrivé sur la table près de l'assiette avec la fourchette, eh bien, le bout pointu, puisqu'il était inutile maintenant pour piquer dans un plat, est devenu rond.
Nous adorons Didier Le Fur au petit bateau. Le dernier livre de cet historien est édité chez Passé Composé et il s'appelle « Peindre l'histoire ». Allez, après avoir changé de siècle, maintenant changeons de planète.
Je m'appelle Gabriel, j'ai 6 ans et j'aimerais savoir s'il y a des orages sur d'autres planètes que la terre. Merci et au revoir.
Gabriel a demandé s'il y avait des orages sur d'autres planètes que la Terre. Vous êtes astrophysicien, Raymond Piccoli, et puis surtout, vous êtes directeur du laboratoire de recherche sur la foudre.
Alors, oui, il y a des orages, bien entendu, sur d'autres planètes que la Terre. On a même des très belles tempêtes. On en a sur Saturne, on en a sur Uranus, on en a sur Neptune, on en a sur un des satellites de Saturne qui s'appelle Titan. On a aussi Vénus. Hein. Alors, on dit que c'est la planète de l'amour, mais bon, il faut savoir que sur Vénus, on a déjà une température qui est assez élevée. On a un peu plus de 450 degrés. On a une atmosphère qui est saturée d'acide chlorhydrique. On a une atmosphère qui est saturée de gaz carbonique et on a aussi des orages absolument fabuleux avec des décharges. Alors, c'est pas des orages terrestres, hein, ça n'est pas tout à fait la même chose, mais dans la haute atmosphère, on a des décharges de foudre par endroits quasi continuels. Donc, il faut savoir que quand une sonde, elles ont une durée de vie très courte hein, sur Vénus, tous les obstacles du voyage dans le système solaire jusqu'à cette planète, il faut encore qu'elle s'affranchisse des orages très violents, hein, des décharges électrostatiques qui vont complètement perturber les instruments, et puis ensuite des pressions énormes, des températures, et puis de cet acide chlorhydrique qui est très mauvais pour les métaux.
Quelle est la définition d'un orage ?
Un orage, on va le résumer très simplement, c'est un phénomène météorologique qui n'est pas forcément accompagné de précipitations, d'accord, sous forme d'eau, la pluie, de glace, la grêle, ou de neige. On peut avoir des décharges de foudre avec de la neige. Un orage, ça caractérise un nuage qui va produire des décharges d'électricité atmosphérique.
C'est drôle avec de la neige, je n'y avais jamais pensé. Donc sur les autres planètes, on peut voir des éclairs. Et on peut entendre le tonnerre, alors?
Je suppose que oui, j'aimerais bien aller y faire un tour pour essayer. Mais du fait qu'il y ait une atmosphère, oui, bien entendu, tant qu'il y a une atmosphère, on peut avoir des déclenchements orageux.
Parce que finalement, le tonnerre, c'est la compression de l'atmosphère suivie de son dilatement d'une façon très violente.
Absolument.
De sa dilatation, pardon.
Oui, très violente, tout à fait. C'est des phénomènes très violents, hein. Sinon on n'aurait pas trop de bruit. Il ne faut pas oublier que les forces électriques, ce sont des forces fondamentales.
Merci Raymond Piccoli. Nous évoquions Vénus avec son atmosphère irrespirable, ses magnifiques et gigantesques orages. Voici Vénus tubissime de l'année 1969.
We'll be right back.
Vous connaissez le principe de l'émission. Des enfants nous laissent des questions sur notre répondeur et nous, nous trouvons des spécialistes en tout genre pour leur répondre.
Les petits bateaux sur France Inter.
Et voici la question de Thomas pour Denis Lebihan.
Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 10 ans et je voudrais savoir combien de temps le cerveau peut tenir sans être irrigué. Merci, au revoir.
Il y a beaucoup de légendes dans ce domaine, Thomas. Merci pour ta question que nous avons proposée à Denis Lebihan, qui a justement écrit un livre qui s'appelle « Le cerveau de cristal ». C'est édité chez Odile Jacob. Alors, est-ce que la neuroimagerie révèle la réponse à la question de Thomas ?
Absolument. Et en fait, la neuroimagerie va aider justement les patients qui vont souffrir de ce problème. Alors, pour répondre à la question « Combien de temps le cerveau peut tenir sans être irrigué ?», je dirais qu'il faut éviter à tout prix de ne pas irriguer le cerveau. Alors on dit dans les livres qu'on peut tenir 3 minutes, alors c'est à la fois vrai et faux, ça va dépendre des gens. On raconte l'histoire d'enfants tombés dans des lacs et qui se sont retrouvés à une température extrêmement basse et qui ont pu survivre au-delà, ben c'est quand même exceptionnel. D'autres personnes, au bout de quelques minutes, vont avoir de gros problèmes et surtout des séquelles. Je prends l'exemple de l'accident vasculaire cérébral, ce qu'on appelle l'AVC, qui est malheureusement le cas le plus typique. Vous avez un vaisseau sanguin qui va s'oblitérer par un petit caillot et les neurones qui sont autour ne vont plus avoir de sang, plus d'oxygène, plus de sucre et ils vont mourir très vite, plusieurs millions par minute. Le problème de l'AVC, c'est que si on ne fait rien, cette région va mourir de façon définitive. Et si la personne ne décède pas, elle risque de se retrouver avec un handicap considérable, aphasique, ne plus pouvoir parler, hémiplégique, donc la moitié du corps qui est paralysée. Donc les conséquences sont dramatiques.
Alors, quand on dit irriguer, Denis Lebihan, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Il lui manque quoi au cerveau?
Alors, le cerveau est irrigué par le sang qui vient du cœur. Le cerveau est l'organe qui consomme le plus de sang dans le corps. À tel point que les Égyptiens pensaient que le cerveau, c'était un radiateur. C'est tout. Donc, dans les momies égyptiennes, ils retiraient, ils gardaient tous les organes, ils les momifiaient, mais pas le cerveau, parce que c'était un simple radiateur. Et l'expression « garder son sang-froid », par exemple, vient de là. On pensait que le cerveau rafraîchissait le sang et que les émotions venaient au niveau du cœur. En fait, aujourd'hui, on sait très bien que les émotions, c'est quand même le cerveau qui les pilote.
Oui, mais on ne sent pas son cerveau alors qu'on sent son cœur.
C'est pour ça, c'est plus facile. Mais pour revenir au problème des AVC, c'est là que l'imagerie a un rôle considérable, puisque l'imagerie diffusion, la méthode que j'ai inventée, donc, est utilisée aujourd'hui dans le monde entier, car elle permet de voir tout de suite, quand quelqu'un a un AVC, une tache blanche qui correspond à cette lésion. Autrefois, il n'y avait rien. Malheureusement,
là, vous la voyez comment, votre tache blanche, c'est extraordinaire.
Alors en fait, c'est parce que les molécules d'eau sont animées d'un mouvement qu'on appelle le mouvement brownien, l'agitation moléculaire permanente. Et il a été montré, dans les années 1990, avec l'IRM de diffusion, que ce mouvement ralentissait dans les régions où les neurones sont en train de souffrir et de mourir. Et il est apparu, à peu près à la même époque, en 1990, un médicament qu'on appelle un thrombolytique qui est, une fois injecté dans le sang, va dissoudre le caillot. Et donc si ces personnes qui ont un AVC ont, entre guillemets, la chance d'avoir un examen IRM en urgence et de pouvoir recevoir ce traitement, elles vont être guéries instantanément.
Quelle merveille.
C'est extraordinaire. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un petit pourcentage des patients ayant un AVC qui vont bénéficier de ce traitement parce que, en général, on se réveille trop tard et surtout, le public ne connaît peut-être pas les symptômes de l'AVC. Puis, une fois qu'on a nettoyé, entre guillemets, l'artère et enlevé le caillot, il faut être sûr qu'il n'y en ait pas d'autres qui vont revenir. Donc, vous voyez, il y a tout un bilan à faire. C'est pas une simple opération de débouchage de tuyaux.
J'ai présenté un peu cavalièrement Denis Lebihan sans préciser qu'il était docteur, docteur en médecine et docteur en sciences et également membre de l'Institut. Il a écrit « Le cerveau de cristal », ce que nous révèle la neuroimagerie éditée chez Odile Jacob.
Alors, je m'appelle Justine, j'ai 6 ans. La question que je me pose en ce moment, c'est pourquoi les enfants ont plus peur de choses que les adultes ?
Que pensez-vous de cette question, Jeanne Siofachin, psychologue, psychothérapeute, auteure de « S'il te plaît, aide-moi à vivre » chez Odile Jacob, à cette question de Justine qui dit que les enfants ont plus peur des choses que les adultes.
Bonjour Justine, je suis tellement contente que tu poses cette question très importante, parce que je crois, tu vois, que c'est une croyance. Comme on dit dans mon métier, c'est une croyance des enfants et de certains adultes que ce seraient les enfants qui ont peur et les adultes qui n'ont pas peur. Alors oui, les enfants, ils ont quelquefois peur de certaines choses, comme la peur du noir, ou la peur d'être seul, ou la peur de plus avoir de copains, ou la peur de perdre son doudou.
La peur d'un animal.
La peur d'un animal, plein de peurs comme ça. Et en fait, on a peur parce que la peur, ça vient dire dans notre corps, dans notre cœur, ouh là là, attention, il y a peut-être un danger et il faut peut-être que je me protège. Et en fait, la peur, c'est une émotion très importante parce que ça nous dit, il y a peut-être quelque chose et il faut que je fasse attention. Et quand on a peur, on peut faire deux choses différentes. On peut soit se dire, je suis fort, je vais y arriver et on va rassembler toutes ses ressources, toutes ses compétences et on va dépasser la difficulté. Ça, c'est le côté positif de la peur, parce que ça nous donne beaucoup d'énergie et beaucoup de force. Et puis, quelquefois, la peur, ça nous paralyse et on n'arrive plus à rien faire du tout. On tremble de peur. Ou encore, la peur, ça nous oblige à partir en courant et à éviter la situation pour ne pas être confronté à cette peur. Ça, c'est le système de la peur. Mais, tu sais, Justine, je vais te faire une confidence. Les adultes, tu peux pas savoir comme ils ont peur. Ils ont si peur de tellement de choses. Mais les adultes, ils ne le disent pas trop. Parce que quand on est adulte, on pense que si on dit qu'on a peur, on va se montrer faible. Mais les adultes, tu pourras leur dire de ma part, ils doivent savoir que être connecté avec sa propre vulnérabilité, c'est un pouvoir, c'est une grande force. Il faut arrêter de faire croire qu'on est fort, parce que tous les adultes ont peur. Alors, ils n'ont pas tout à fait peur des mêmes choses. Ils ont peur de choses un peu plus abstraites, un peu plus conceptuelles. Ils peuvent avoir peur d'être seuls, peur d'être abandonnés, peur de ne pas être aimés, de la vie, de la mort, de ne pas être reconnus, que personne ne s'intéresse à eux. Ils ont peur de ne pas y arriver. Beaucoup d'adultes ont peur de pas y arriver, mais ils font semblant. Ils font semblant, 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 semblant. Et ça leur prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et ça les épuise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors que quand on reconnaît cette peur en nous, tous, eh bien, à ce moment-là, ça peut paraître un peu curieux comme mécanisme. Mais finalement, on a moins peur parce que quand on se relie justement à notre vulnérabilité, à notre fragilité, eh bien, c'est quelque chose qu'on partage avec tout le monde. On est juste humain et alors, on est vraiment avec les autres. Et ça va beaucoup, beaucoup mieux.
Le courage d'avoir peur. Jeanne Ciot-Fachin a écrit « Un printemps pour soi ».
Tu es belle comme une voiture volée. t'es toute ma vie, que t'es mon soleil, mon rubis, que moi je suis facile, que je m'allonge tranquille, que je suis soumis, que t'es toute ma main. J'avais rencontré avant, oh, quand j'étais jeune et charmant, même pas maquillé, t'es belle comme une voiture volée, t'es la balle qui m'a fait tomber, t'es belle comme une voiture volée.
Le dernier titre de Benjamin Violet, comme une voiture volée. Cette toute nouvelle chanson est extraite de la playlist de France Inter. France Inter, où vous écoutez Les Petits Bateaux, l'émission où des savants répondent aux enfants.
Bonjour, je m'appelle Joachim, j'ai 4 ans et demi, et je voudrais savoir qui a mis les graines pour faire pousser des forêts. Au revoir.
Ernst Zürcher, voilà une question que vous pose Joachim. Vous êtes ingénieur forestier, docteur en sciences naturelles, professeur et chercheur en sciences du bois. Qui a mis les graines, vous demande Joachim.
Excellente question de la part de Joachim. Il faut toujours se demander d'où viennent les choses. Et là, le monde devient passionnant. Alors, qui a mis les graines qui font pousser la forêt? C'est tout simplement les arbres. Parce que les arbres, une fois qu'ils ont atteint l'âge adulte, ils ont donc atteint une phase de reproduction qu'on appelle sexuée. Ça peut être après plusieurs dizaines d'années, lorsque l'arbre a atteint sa grande taille. Et les résineux vont faire des cônes, on les appelle aussi conifères. Les feuillus vont faire des fleurs, des fruits. Ces fruits, c'est des fruits secs ou des fruits charnus. Mais toujours à l'intérieur de ces fruits, il y a des graines qui permettent donc la reproduction après avoir germé. Atteint le sol, germé, un nouvel arbre va se développer. Ce qui est intéressant, c'est que ce processus de germination n'a pas lieu, du point de vue du temps, n'importe comment. Ça a lieu à un certain moment de la saison. La germination est très forte au printemps, beaucoup moins plus tard. Et selon certaines phases lunaires, la germination se fait mieux qu'à d'autres phases lunaires. Il y a tout un mouvement cosmique qui a lieu à ce niveau-là, qui est passionnant. Alors les graines germent, les arbres se développent et on peut se demander, ces graines sont très très diverses dans leur dimension, dans leur poids, dans leur taille. L'arbre peut avoir des graines extrêmement petites. L'arbre le plus gros du monde, c'est le Wellingtonia qui fait 1500 mètres cubes de volume, branches y comprises. Ce Wellingtonia a des graines absolument minuscules. Il a des graines tellement fines et légères qu'il en faut 200 000 pour avoir un kilo de graines. Donc là, c'est un phénomène
c'est
incroyable.
De la poudre.
C'est de la poudre, mais chaque grain, chacune de ces graines est déjà un Wellingtonia. Et c'est ça qui est fabuleux. Et le dernier, celui qui aura pu vivre pendant 3000 ans, aura atteint cette masse énorme. De l'autre côté, vous avez le champion du poids, de la grosse graine. C'est une graine qui n'est pas disséminée par le vent comme les graines du Sequoia dendron, là, du Wellingtonia. C'est des graines qui sont disséminées par la mer. C'est donc la célèbre graine, le coco des Seychelles.
Yes.
Le coco des Seychelles qui a un joli nom, dont la graine a un joli nom, c'est le coco fesse. Parce que cette graine a une forme physiognomique.
Comme une raie des fesses au milieu, qui
exactement, sépare, assez curieuse, assez drôle. Et ces graines qui flottent ont un poids de plus de 20 kilos. Il ne faut pas être sous un coco-fesse lorsque la graine tombe.
Ah oui.
Il y a encore quelque chose d'intéressant concernant les graines, c'est celles qui sont disséminées par les animaux. Par exemple, un animal, c'est le casse-noix moucheté, qui va travailler les cônes du pin sambreau pour en faire des réserves. Il va en ingurgiter plusieurs dizaines à la fois et va les régurgiter dans des caches dans le sol, tout au même endroit, et plusieurs caches, plusieurs dizaines de caches. Et ensuite, il en aura besoin pendant l'hiver parce qu'il n'est pas migrateur, il habite sur place. et il sera capable de retrouver ses caches sous une couche de neige qui peut avoir plusieurs mètres d'épaisseur. Il va faire son canal à travers son tunnel à travers la neige pour aller exactement retrouver ses graines dont il a besoin pour se nourrir.
Vous pourrez retrouver Ernst Zürcher dans la revue Native. Il nous explique comment les écailles des pommes de pin correspondent au nombre d'or. Comment la disposition de ces écailles correspond au nombre d'or. La revue Native est la première revue en français consacrée au peuple premier, avec dans ce deuxième numéro un grand papier sur le yin-yang. Toute vie est issue des ondulations entre ces deux principes. En ce moment, chez les humains, le yang, l'action, est surreprésenté au détriment du yin, l'ancrage. Coupé de son yin, l'homme est un peu comme un très beau bateau avec une voile magnifique, mais une minuscule coque, donc quasiment pas d'endroit pour se poser. L'humain doit être le point d'union et non la discorde entre ces deux énergies. Le site de la revue Native est sur celui des petits bateaux. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur franceinter.fr. Eliane Gérard, Jean-Baptiste Audibert, Marjorie Devoucou, Noël Bréham, Clément Berman, nous avons été heureux de passer ce moment avec vous. Après le flash de 20h, vous retrouverez Jérôme Garcin pour Le Masque et la Plume. Ils évoqueront les grands classiques du cinéma.